Alors ce matin, nous poursuivons notre étude de l'Évangile de Marc. Malheureusement, le premier message, le 12 septembre, des problèmes techniques ont empêché qu'il soit enregistré. Alors ceux d'entre vous qui ont essayé d'aller sur le site pour écouter le message, il n'est pas là, puis il ne sera pas là parce qu'il n'a pas été enregistré. Alors, vous auriez dû être là. Mais on continue quand même. On a pas, et je vais avoir l'occasion la semaine prochaine, lors des baptêmes aussi, de revenir justement sur cette première section de l'Évangile de Marc, qui est le verset 1 jusqu'au verset 13, et dans lequel on voit aussi le baptême de Jésus et sa tentation. Alors la semaine prochaine, ça va bien aller avec aussi les baptêmes qu'on va avoir. Donc, on va continuer la semaine prochaine. On va un petit peu revenir en arrière dans un sens, mais ce matin, c'est Marc 1, 14 à 45. Alors, c'est quand même une assez bonne section du chapitre 1. Alors, par la grâce de Dieu, je vais être capable de passer à travers tout ça, parce que naturellement, il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements dans ces versets-là. Et vous savez, quand on lit comme ça les Écritures et que on cherche à sonder les Écritures, à connaître qu'est-ce que le texte veut nous communiquer. C'est quoi le désir de Dieu et de l'auteur, naturellement, qu'il s'est servi, qui est Marc, pour communiquer ici le message qu'il voulait que nous, on puisse recevoir. Non seulement les premiers lecteurs à qui l'Évangile de Marc était destiné, qui étaient essentiellement des non-juifs romains, d'origine romaine. Alors ça, c'est l'accent premier que Marc, ou les destinataires premiers que Marc voulait communiquer. Mais aussi pour nous, naturellement, parce que l'Évangile nous est destiné à nous aussi. Alors, en lisant cette portion des Écritures, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé et je l'ai mis comme titre du message de ce matin. Et c'est ceci: le plus difficile à faire pour Jésus. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus difficile à faire pour Jésus, lui, que Marc nous présente comme étant le serviteur parfait? Alors, vous me diriez, ben non, pour Jésus, tout est facile ou tout est égal. Hein? Êtes-vous d'accord? Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu incarné. Il a tout pouvoir, toute autorité. Et Marc nous le montre. Il nous montre d'une façon frappante dans ces versets 14 à 45 la grandeur de l'autorité de Jésus. Non seulement par son enseignement qui se distingue des scribes que les Juifs étaient habitués. Et lorsqu'ils ont entendu Jésus enseigner, ils ont dit, waouh! Il enseigne avec autorité. Il a de l'autorité, Jésus. Et quand il enseigne d'une façon qui est totalement différente de ce qu'on est habitué de connaître. Et pour voir son discours, il faut aller dans Matthieu, parce que Matthieu nous rapporte son discours, qui est le discours sur la montagne, son sermon sur la montagne. Et justement, à la fin de ce sermon, ce que Marc ne nous inclut pas le sermon, mais il nous inclut un enseignement que Jésus a donné à cette même période de son ministère. Par contre, la même remarque est faite, il enseignait avec autorité. Et en plus, Marc nous montre aussi que non seulement Jésus enseignait avec autorité, mais il œuvrait avec autorité. Il avait de la puissance, parce que là, il faisait des miracles qu'il n'avait jamais vus, de cette ampleur-là. Jusqu'aux démons, nous dit Marc, lui obéissait. Et là, on voit encore là l'autorité de Jésus. Maintenant, Marc nous montre aussi qu'il y a quelque chose qui est le plus difficile à faire pour Jésus. C'est plus difficile à faire pour Jésus, ce que Marc va nous montrer, que prêcher la bonne nouvelle. Ou encore, comme je viens de dire, enseigner avec autorité. Ou encore, recruter des disciples à sa cause. ou encore guérir les malades, chasser les démons, même ordonner aux démons de se taire et lui obéissent. Et pourtant, dans cette section, Marc va nous montrer que Jésus n'a pas été capable d'emmener un simple homme, un rejeté de la société, à se taire. Il n'a pas été capable de l'emmener, cet homme-là, à faire ce qu'il lui demandait de faire. Et l'homme a fait le contraire. Et moi, quand j'ai constaté ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que Marc essaie de nous donner? Parce que, vous savez, dans tous les évangiles, c'est le seul Marc qui souligne cet événement-là. Les autres vont en mentionner, mais ils ne mentionneront pas que l'homme a désobéi à Jésus. Mais Marc le fait, lui. Et je pense qu'il y a une raison pourquoi Marc souligne ce détail qui est arrivé, naturellement, et qu'il voulait qu'on comprenne. Et c'est ça que j'aimerais ce matin, à travers l'étude du texte qu'on va regarder, attirer votre attention sur pourquoi cet homme-là n'a pas écouté les recommandations sévères que Jésus lui a données. C'était de se taire, de ne rien dire à propos de Jésus. Et on va voir qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer à travers ça ce matin. Et surtout, j'espère le rencontrer, lui, ce merveilleux Sauveur. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci. Merci ce matin de ce qu'on peut s'approcher de toi. Merci de ce qu'on peut chanter des louanges. Et quand on est en train de chanter ces louanges-là, de justement interagir avec toi, Seigneur, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre pensée. Parce qu'on reconnaît que tu es vivant. On reconnaît, Jésus, que tu as toute autorité. On reconnaît, Jésus, que toi, tu as la solution, que tu es la solution. On reconnaît, Jésus, que tu n'es pas indifférent à ce que nous vivons et à ce qui se passe autour de nous, dans nos propres vies, dans nos familles, dans ceux qu'on connaît, dans cette société qui est tellement en déroute et dans ce monde qui est en train de s'auto-détruire. Ô Seigneur Jésus, sois avec nous ce matin. Dispose nos cœurs pour qu'on entende ton évangile, pour qu'on puisse réaliser encore plus qui tu es et ce que tu veux faire. Car c'est en ton nom, Jésus, qu'on te prie et pour ta gloire. Amen. Alors, j'aimerais lire naturellement cette section, même si elle est longue un peu, et vous demander si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre, peut-être allumer les lumières si, pour que vous, les gens soient capables de lire dans leur Bible, ou si encore vous préférez écouter, vous pouvez même fermer vos yeux si vous voulez, puis essayer de bien recevoir ce que ces versets sont en train de nous communiquer sur Jésus. Alors, on lit ceci, Marc chapitre 1, versets 14 à 45. Après que Jean, en parlant de Jean-Baptiste, eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait, « Le temps est arrivé, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » En passant le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leurs filets dans la mer. En effet, ils étaient des pêcheurs professionnels. Ils gagnaient leur vie avec cela. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Bang! Sans question, sans argumentation, sans rien d'autre, aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient aussi dans une barque et réparaient leurs filets. aussitôt, il les appela. Et aussitôt, ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec ceux qui étaient employés et ils le suivirent. Il me semble de voir la scène. « Hey, tu t'en vas où, fiston? Hey, les gars, vous allez où, là? Pas fini, là? Les filets sont pas réparés encore? Hein? Bye-bye, papa. » Quelque chose ici, là. Jésus, il y a quelque chose qui fait que il demande et bang, aussitôt. Verset 21, « Ils se rendirent à Capernaum. » Et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ils étaient étonnés de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur et qui s'écria, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. » Imaginez-vous, c'est le démon là, qui parle à travers cet homme-là. Il dit quoi sur Jésus? Tu es le Saint de Dieu. Il reconnaît la divinité de Jésus. Un démon. Toute une théologie, hein? Imaginez-vous, quand Jacques dit les démons croient en Dieu et ils tremblent, voyez, ils ont la croyance en Dieu. Et pourtant, ils sont perdus. C'est des démons. Et ici, c'est étonnant, là. Tu es le Saint de Dieu. Et ailleurs, dans d'autres évangiles, ça dit, tu es le Christ. Reconnaissent qu'il est le Messie encore là. Celui qui devait venir loin de l'Éternel. C'est incroyable. Et là, ça dit, Jésus le menaça, tais-toi et sors de cet homme. L'esprit impur sortit de cet homme dans une convulsion et en poussant un grand cri. Alors, ça devait être une scène assez spéciale. Mais il obéit. Verset 27, « Tous furent saisis de stupeur, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? » C'est quoi ça veut dire? Une nouvelle doctrine donnée avec autorité? Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la région de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui saisissant la main. Et bang, la fièvre la quitta. Et elle se mit à les servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et là, regardez, toute la ville était rassemblée devant la porte. Imaginez-vous la cohue qu'il y avait là. Il guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux. Il chassa aussi beaucoup de démons, mais il ne laissa pas les démons parler, parce qu'il le connaissait encore ici. Vous voyez, c'est fort. Ça affirme que les démons même connaissaient Jésus, mais ils étaient perdus. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Seul endroit où il pouvait faire cela. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le chercher, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tous te cherchent! » Il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il s'en alla par toute la Galilée, prêchant dans les synagogues et chassant les démons. Et là, voici l'histoire du lépreux. Au verset 40, « Un lépreux vint à lui et se jetant à ta genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya aussitôt avec de sévères recommandations. Spécial, hein? C'est bien écrit, là. Il lui dit, regarde bien, là. Écoute comme faut, là. Garde-toi de rien dire à personne, mais va tout de suite te montrer au sacrificateur et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit. afin que cela leur serve de témoignage. Verset 45. Mais cet homme, une fois parti, se mit à publier hautement la nouvelle et à la colporter. Hein? Ça veut dire quoi, ce colporter? Hein? Il a stoulé. Hein? Il a rapporté. Et apparemment, il a fait vraiment une bonne job. Hein? Même s'il désobéissait à Jésus, à ses recommandations sévères, ici, en plus, il n'y a rien qui est mentionné qui est allé au temple encore pour faire sa purification. C'est important pour lui, là. Il ne pouvait pas être déclaré guéri, pur, tant et aussi longtemps que le sacrificateur n'avait pas constaté qu'il était effectivement pur. Ce qui voulait dire qu'il était chassé du temple, chassé d'adorer Dieu, chassé d'être en présence des autres personnes. Il devait toujours, à chaque fois qu'il se promenait, déclarer impur, impur, à chaque fois qu'il y avait du monde. À chaque fois qu'il y avait du monde qui arrivait, qui s'emmenait dans cette direction à lui, la loi disait, tu dois dire impur, impur. Pourquoi? Pour avertir les gens en disant, ne venez pas vers moi, ne venez pas en ma présence, je suis contagieux. Hein? Avec la C difficile ou la maladie, là, je sais pas trop qui portait, là, qu'il fallait se laver les mains, puis tout ça. Imaginez-vous si tout le monde aurait dit impur, ceux qui l'avaient, là. Hein? Ça aurait été atteinte à la liberté et aux droits humains, là. Si jamais ça aurait été fait ça, mais dans le temps de Jésus et de l'Ancien Testament, c'est exactement ce qu'il devait faire. Alors, imaginez-vous là ce que Jésus était en train de faire pour lui, puis lui, il est allé plutôt publier hautement ce que Jésus avait fait pour lui, puis il la colportait. Et là, ça dit de sorte que Jésus ne pouvait même plus entrer ouvertement dans une ville. Alors, ça s'est répandu, hein, la nouvelle. Il l'a colporté pas rien qu'un petit peu. Se tenant dehors, dans les lieux déserts, où l'on venait à lui de toutes parts. Alors là, il fallait qu'il reste à l'extérieur des villes, étant donné qu'il pouvait pratiquement plus rentrer dans une ville, tellement qu'il y avait une cohue incroyable. Tout le monde voulait venir le rencontrer. Tout le monde voulait être purifié. Tout le monde qui avait une maladie ou un esprit démoniaque voulait être guéri. J'ai entendu, je constate, je vois que tu es guéri de ta lèpre et... Alors, tout le monde voulait avoir quelque chose de Jésus. Donc, dans cette section, Marc mentionne que Jésus est allé en Galilée. Et il dit bien que c'est après que Jean a été capturé. Et on sait que Jean-Baptiste a été capturé par Hérode parce qu'il avait dénoncé son mariage, qui était un mariage qui allait à l'encontre des lois de Dieu. Et elle n'a pas aimé ça, sa femme, et bon, on connaît l'histoire qui nous est rapportée dans les évangiles, qui a fait qu'il a été arrêté, et un peu plus tard, il a même été décapité. Alors, Marc ici nous dit qu'il se rend en Galilée, et dans les fêtes, il retourne en Galilée, OK? Et il débute son ministère, puis dans les faits, il poursuit son ministère. On devrait, pour être plus... vrai au niveau de ce qui s'est passé dans la réalité. Parce que les évangiles synoptiques, par exemple, Matthieu, Marc inclus, et Luc, ne font pas tellement état du ministère de Jésus entre son baptême et, justement, son retour en Galilée. Il n'y a pas d'information qui nous est donnée. Par contre, lorsqu'on va dans l'évangile de Jean, c'est là qu'on a l'information de qu'est-ce qui s'est passé, en partie, en tout cas, parce que tout ne nous est pas rapporté, mais une fenêtre nous est ouverte à partir du chapitre 2, aller jusqu'au chapitre 4, verset 1. Alors, du chapitre 2, verset 1 au chapitre 4, verset 1, on a qu'est-ce que Jésus a eu comme ministère, à la fois en Galilée et aussi en Judée et à Jérusalem pendant cette période après son baptême et la capture de Jean-Baptiste. Alors, ce qu'on voit, par exemple, dans l'évangile de Jean, c'est les noces de Cana. Et qu'est-ce que Jean nous dit de particulier aux noces de Cana? Il nous donne une information intéressante. Jésus a fait un miracle. Et il nous mentionne bien, Jean, que c'était son premier miracle. Donc, si on lirait Marc, on pourrait penser que les miracles qu'il a fait ici, c'était ses premiers miracles. Ben non. Il a déjà été en Galilée quelques mois auparavant. On ne sait pas exactement quand, mais on sait que c'est avant. On sait que c'est dans la période entre son baptême et l'arrestation de Jean-Baptiste, qui s'est découlée quand même un certain temps. Et on sait qu'il a fait un miracle en Galilée. Donc, il a déjà été en Galilée et il a fait un miracle. Et c'était pendant des noces. Et donc, ça a eu un impact aussi. Il était connu à ce moment-là. Et c'est le premier miracle qu'il a fait, c'est de changer l'eau en vin. Et on sait aussi, parce que Jean nous le mentionne, qu'il y a eu un ministère quand même assez intense à Jérusalem. C'est pendant cette période-là qu'il est allé au temple. Et qu'est-ce qu'il a fait là? Qu'est-ce que Jean nous dit qu'il a fait dans le temple? Il a brassé la cabane. Hein? Il est arrivé là, puis il a vu que c'était vraiment un bazar, un marché aux puces ou quelque chose semblable à ça. Et là, il s'est dit, c'est quoi cette affaire-là? Et là, c'est là qu'il déclare que la maison de Dieu était une maison de prière, puis vous en avez fait une? Une quoi? Une caverne de voleurs, parce que là, bon, il y avait du marchandage et il vendait à des prix exorbitants, puis ainsi de suite. Puis dans le fond, il y avait beaucoup d'extorsions qui étaient faites sur le dos des gens pour qu'ils puissent aller adorer Dieu. Et là, Jésus était mécontent de cette situation-là. C'est pendant ce temps-là aussi qu'il a rencontré Nicodème et qu'il a eu cette fameuse conversation avec lui, la femme samaritaine. Alors, on voit que Jésus a eu un ministère pendant cette période-là. Marc n'en parle pas, OK? Et d'ailleurs, ni Luc, ni Matthieu, mais Jean, c'est celui qui nous le donne. Matthieu, par contre, mentionne que Jésus a quitté Nazareth. Ça, c'est la ville natale de Jésus, qui se trouve à être au sud de la Galilée, pour se rendre à Capernaum, dont Marc nous fait part ici dans son évangile. Et Capernaum, si on regarde sur la carte, c'est au nord de la Galilée, c'est tout près de la mer de Galilée. Okay? Alors, Nazareth est en bas, et Capernaum est plus au nord, plus en haut, et tout près de la mer de Galilée. Maintenant, ce que Matthieu nous donne, c'est qu'il nous donne la raison pour laquelle Jésus s'est en allé à cette région-là, qui a quitté Nazareth. Et la raison qu'il donne, c'est que c'était pour accomplir une prophétie qui était donnée dans Ésaïe, chapitre 8 et chapitre 9, qui est celle-ci. « Écoute, ô toi, terre de Zabulon, et toi, terre de Nephtali, contrée voisine de la mer, située au-delà du Jourdain, ô toi, Galilée des nations non-juives, le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient dans le pays sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » Et c'est exactement ce qui est en train de se réaliser avec la venue de Jésus à Capernaum. Maintenant, Luc, lui, mentionne un autre détail, parce qu'il y avait l'accomplissement de la prophétie qui avait été prophétisée longtemps d'avance, que Jésus se rendrait à Capernaum et que la lumière brillerait dans cette ville. Et on voit comment la lumière brille, parce qu'il y a beaucoup de guérisons, beaucoup de choses extraordinaires qui sont en train d'arriver pendant que Jésus est là. Mais Luc, lui, mentionne que Jésus a quitté Nazareth dans des circonstances bien particulières. Autrement dit, il n'y avait pas juste l'accomplissement de la prophétie qui était en lumière. Il y avait aussi autre chose. Et regardez les circonstances. C'est que ses compatriotes, parce que Jésus est de Nazareth, il a grandi à Nazareth. Alors, il est né à Bethléem, mais il a grandi à Nazareth. C'était donc là qu'ils l'ont vu grandir. Ils l'ont vu à travers toutes ces années-là. On sait que Jésus a commencé son ministère vers l'âge de 30 ans. Donc, il a passé une bonne partie de sa vie à Nazareth. Et il était reconnu comme Jésus de Nazareth parce que c'était sa ville natale ou sa ville où il a grandi. Parce que, bon, comme je disais tantôt, il n'est pas né à Nazareth, mais il a grandi là. Et ce qu'on voit ici, c'est que lorsque Jésus a enseigné à la synagogue de Nazareth, et ça dit selon sa coutume, ça veut dire que Jésus, pour lui, aller à la synagogue, c'était sa coutume. C'était pour lui la chose qu'il faisait. Ça faisait partie de sa vie. Donc, avant même de commencer son ministère, Jésus se rendait à la synagogue. Et il allait avec les autres écouter les Écritures et faire ce qu'un juif, un bon juif qui voulait honorer Dieu, qui voulait être pieux, faisait. Alors, il le faisait lui aussi. Mais regardez bien qu'est-ce que Luc nous rapporte au chapitre 4 de son évangile, au verset 28 à 30. En parlant de ces circonstances particulières dans lesquelles Jésus a quitté Nazareth. Ça dit ceci, une fois que Jésus a lu dans Ésaïe, en ce qui concernait le Messie, il s'est assis et il a dit, voici cette parole des Écritures est accomplie en disant « Moi, je suis le Messie », autrement dit, « Je suis celui dont le texte Ésaïe est en train de parler ». Et il a continué à interagir avec eux. Et là, une fois qu'il a eu fini de parler, ça dit ceci, « En entendant ces paroles, tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère. Ils se levèrent, entraînèrent Jésus hors de la ville, jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle elle était bâtie, afin de le précipiter dans le vide. » Imaginez-vous. Ici, ses compatriotes ont rejeté son ministère. Ils n'ont pas cru en lui. Ils n'ont pas cru qu'il était le Messie. Et ils sont allés jusqu'à vouloir l'éliminer. Ils ont voulu le tirer en bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça dit, il passa au milieu d'eux et s'en alla. Ils n'ont rien vu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais une chose est sûre, c'est qu'ils l'ont emmené jusque-là, ils l'ont poussé, ils l'ont bousculé, ils l'ont, puis là, en colère, là, criait, puis ainsi de suite, puis là, probablement blasphème, ou je ne sais pas, mais en tout cas, il voulait sa peau, puis il est arrivé à ce moment-là sur la montagne, puis à un moment donné, il a dit, OK, c'est assez, et puis il a passé à travers, puis là, ils ont dû dire, ouais, voyons, c'est quoi, pourquoi on est ici, donc? C'était quoi le but qu'on est venu ici? Voyons, on sait, qu'est-ce qui s'est passé? Il est où? Ouais, c'est vrai, Jésus, il est où? Il était disparu. Alors ça, c'est aussi parce que, naturellement, son temps n'était pas venu. Et étant donné qu'il a l'autorité qu'il a, alors il a pu faire ça d'une façon qui était extraordinaire, qui était dans un sens hors de l'ordinaire, qui était un miracle. Maintenant, qu'est-ce qui les a autant mis en colère? Eh bien, dans les versets précédents, Jésus expliquait à ses compatriotes juifs, dans la synagogue, que la compassion de Dieu ne se limite pas au peuple de Dieu, mais qu'elle s'étend aussi aux non-juifs et à tous ceux qui sont rejetés et qui se tournent vers Dieu avec une foi sincère. Jésus explique que du temps d'Élie, il y a eu une grande sécheresse pendant 3 ans et demi, 3 ans et 6 mois, et qu'il y avait beaucoup de veuves juives et de lépreux qui vivaient à cette époque-là en Israël. Et pourtant, seulement 2 personnes ont obtenu la faveur de Dieu. Et c'est ça qui a mis en colère les Juifs. Parce que ces 2 personnes-là étaient des non-Juifs. C'était la veuve Sarepta et le lépreux Naaman. Pourquoi est-ce que Dieu avait seulement eu compassion de ces 2 non-Juifs-là? Et ça, c'est l'histoire d'Israël qui nous le dit. Parce que quand on regarde l'histoire d'Israël et qu'on regarde la période d'Élie, une des caractéristiques qu'on voit à ce moment-là du peuple de Dieu, c'est que son cœur était fermé. Le cœur du peuple de Dieu était fermé, incrédule. Il voulait rien savoir de Dieu. Il blâmait Dieu. Il jappait après Dieu. Ils étaient en colère contre Dieu. Alors, quand Élie est venu et qu'il a exercé son ministère, il n'a pas pu faire de miracle, excepté avec ces 2 personnes-là qui étaient des non-juifs. Pourquoi? Avec ces 2 personnes. Et encore là, c'est l'histoire qui nous le montre. C'est que ces 2 personnes-là cherchaient Dieu. Ces 2 personnes-là avaient un cœur ouvert à recevoir ce que Dieu voulait faire pour chacune d'elles. Et elles ont reçu ce que Dieu voulait leur donner. Maintenant, ce que Jésus leur dit, c'est qu'un prophète n'est jamais bien reçu dans sa maison. Ce qui se passe du temps d'Élie se passe encore maintenant. Vous ne voulez pas venir à moi. Pourquoi? Parce que votre cœur est fermé. Et ça, c'est la triste réalité parfois, qu'on peut avoir Jésus présent et lui fermer la porte, lui fermer son cœur, parce qu'on ne veut pas recevoir ce qu'il veut nous donner. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait à Capernaum? Parce que là, il s'en va de Nazareth et il s'en va à Capernaum. Alors, ce que Marc nous montre et que les autres évangiles nous montrent, c'est qu'il va prêcher la bonne nouvelle. Il commence son ministère de prêcher cette bonne nouvelle. Il appelle quelques-uns de ses disciples. Alors, on en voit quatre qui vont faire partie de son groupe de G12. Il va enseigner dans les synagogues avec autorité. Il va guérir les malades, puis il va chasser des démons en grand nombre. Maintenant, ce que Marc nous montre ici, c'est que Jésus est vraiment unique. Il enseigne avec autorité, non pas comme les scribes, et il agit avec autorité car les esprits impurs lui obéissent. Naturellement, Marc nous montre que l'impact d'une telle autorité, c'est que ça fait augmenter sa réputation. Et là, les gens sont étonnés, ils sont saisis de stupeur, ils accourent de partout pour l'entendre et le voir à l'œuvre. Mais pourtant, Marc nous montre un détail important. C'est que Jésus n'est pas capable d'emmener un lépreux à se taire. Et donc, à respecter ce que Jésus lui a demandé. Le même Jésus. Le même Jésus que Marc nous démontre qu'il a toute autorité. Qu'il appelle ses disciples, ils répondent. Prêche la bonne nouvelle, les gens écoutent. Et ainsi de suite. Miracle, guérison. Spécial. La réaction de cet homme est vraiment surprenante. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Et moi, je vais vous donner ce que je crois, ce qui est en train d'arriver. Je crois que Marc inclut cette réaction surprenante pour mettre en évidence à quel point l'impact de Jésus dans la vie d'une personne est unique. Le même Jésus qui a l'autorité de fermer la bouche des démons et les amener à obéir à ses ordres ne peut convaincre un simple mortel de garder le silence à son sujet. Logiquement, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est quoi cet impact-là que Jésus a eu sur ce lépreux qui fait qu'il ne peut pas garder le silence? Il ne peut pas respecter ce que Jésus lui demande. J'aimerais ça regarder cette réaction-là maintenant. Il y a trois questions que je me suis posées en étudiant cette réaction-là de ce lépreux. C'est qu'est-ce qu'il y a d'impressionnant dans l'approche du lépreux? Il y a quelque chose d'impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a de touchant dans la réponse de Jésus? Quelque chose ici. Et qu'est-ce qu'il y a de surprenant justement dans la réaction du lépreux face aux recommandations sévères de Jésus? Je vais juste relire les versets 40 à 45, juste pour nous remettre dans le contexte. Alors, Marc nous dit ceci. « Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux. » Sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya aussitôt avec de sévères recommandations et lui dit, garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, une fois parti, se mit à publier hautement la nouvelle et à la colporter. De sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Alors, ici, on voit dans l'approche du lépreux ceci, ce qui est impressionnant. Qu'est-ce que le lépreux a fait? Bien, premièrement, il est venu à Jésus. Ça, c'est assez impressionnant. Parce qu'ici, ça démontre son grand besoin, qui était plus grand que l'embarras que ce lépreux-là vivait depuis des années. Où, honnêtement, quand il y avait une foule, lui, là, il se tenait à l'écart. Il ne pouvait pas être parmi les gens. Il n'avait pas le droit d'être parmi les gens. Il se faisait rejeter constamment. Comprenez? Personne ne voulait être à ses côtés. Personne ne voulait être son ami. Tu n'étais pas l'ami d'un lépreux. Ça ne faisait pas tellement bien sur ton Facebook, hein, d'avoir un lépreux comme contact. Non, non, c'est quoi ça? C'était un rejeté, littéralement. Il vivait constamment dans le rejet. Et naturellement, la pauvreté et tout ce que ça allait avec. Alors, lui, il savait qu'il était un fardeau pour les autres. Et il savait aussi qu'il dérangeait les autres constamment. Et pourtant, il est venu à Jésus. Ça veut dire que son besoin était énorme. Il voulait être guéri. Vous voyez? Il voulait, lui, Jésus. Contrairement à ceux de Nazareth, ici on voit un lépreux qui, lui, veut rencontrer Jésus. L'autre chose qu'on voit, c'est qu'il s'est jeté à genoux. Alors, qu'est-ce que ça démontre du lépreux? Ici, ça démontre, dans le fond, sa disposition humble de son cœur. Tu ne te jettes pas à genoux comme ça devant n'importe qui. Et là, il s'est jeté à genoux devant Jésus, à ses pieds, parce que c'était ça qui était la disposition de son cœur. Et finalement, on voit qu'il l'a supplié en disant, autrement dit ici, il venait pas à Jésus en disant, « T'es bien mieux de faire quelque chose pour moi. Hein? Comment se fait que tu me laisses dans la marde de même, là? Comment se fait que tu t'es pas attentionné à moi? » Je veux dire, on peut faire des choses comme ça des fois, juste dans notre douleur. Hein? On est tellement découragé, on est tellement... Et Dieu le sait aussi, ça, vous comprenez? Il sait quand c'est un reproche qui est causé plus parce qu'on a tellement un désir de que Dieu fasse de quoi pour nous, et aussi quand on est vraiment, là, on veut rien savoir de Dieu, là, et comme un peu ceux de Nazareth. Alors ici, on voit qu'il l'a supplié. Et qu'est-ce que ça démontre? Eh bien, moi, ce que je vois ici, ce qui est très clair, c'est que ça démontre l'authenticité de sa foi en Jésus. Si tu le veux, moi, je n'ai pas à te donner des ordres, je n'ai pas à te dire quoi faire, mais je sais ceci, si tu le veux, tu peux. Je le crois. Je crois que tu peux me guérir, si tu le veux. Et la réponse de Jésus est très touchante. La première réaction que Jésus a eue, ça a été d'avoir de la compassion. Le texte nous dit qu'il a été ému de compassion. C'est ici ça démontre le cœur de Dieu qui n'est pas insensible à la souffrance humaine. Dieu n'est pas insensible. On le voit ici à travers Jésus, à travers sa réaction. Et ce qu'on voit qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit que Jésus a fait quelque chose de spécial. Il a étendu sa main et il l'a touché. Est-ce que vous réalisez ce qui est en train de se passer? Moi, je pense que je l'ai saisi quand j'ai lu un livre d'un médecin chrétien qui a travaillé en Inde avec les lépreux. Son nom, il s'appelle Paul Brand. Il a écrit un livre, malheureusement, il n'est pas en français, mais qui dit « La souffrance, un don de Dieu que personne ne veut. » Oui? On n'en veut pas. C'est un don de Dieu, mais on n'en veut pas. Okay? Alors, il écrit son livre, c'est le titre de son livre, c'est assez frappant. Mais il dit, à un moment donné, naturellement, lui, il voulait aider les lépreux, puis il cherchait à trouver des solutions et toutes sortes de choses pour... faire avancer leur cause, et ainsi de suite. Et il a fait des découvertes assez extraordinaires. Dieu lui a vraiment donné un don et un cœur et sa compassion. Tout ça a fait que je pense que le Seigneur l'a utilisé grandement. C'est une façon extraordinaire. Mais il raconte l'histoire, à un moment donné, d'un lépreux, justement, qui est venu vers lui. Puis à un moment donné, le lépreux s'est mis à pleurer. Puis il pleurait vraiment à chaudes larmes. Alors, il dit, moi, je réagis, je sais, j'ai-tu fait mal, j'ai-tu fait quelque chose, j'ai-tu dit quelque chose qui l'a blessé. Alors, il était tout indisposé et tout ça, puis il dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Le lépreux, il dit ceci, il dit, ça fait des années que personne ne m'a jamais touché. Il dit, quand vous avez mis votre bras autour de mon épaule, si vous saviez ce que ça m'a fait à l'intérieur. Puis il a dit, j'ai senti votre compassion pour moi. Et moi, je crois que c'est exactement ce que Jésus voulait communiquer aux lépreux ici. C'est pas juste sa méthode de guérir, vous comprenez? C'est qu'il savait que non seulement tu as un handicap physique, mais tu as un cœur aussi. Et je sais comment ton cœur se sent rejeté. Et Jésus a étendu sa main et il l'a touché. Et moi, je pense que cette touche personnelle de Jésus à ce lépreux a emmené quelque chose de spécial dans le cœur de cet homme. Et je crois aussi que c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu faire ce que Jésus lui a demandé. Moi, je pense, honnêtement, là, qu'il n'a même pas entendu ce que Jésus lui a dit de faire. Ce gars-là, là, il était tellement hors de lui-même. Il venait de vivre quelque chose qui était la chose la plus extraordinaire de toute sa vie. Non seulement je suis guéri de ma lèpre, mais j'ai rencontré Jésus. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Il y a une guérison que Dieu a faite, non seulement au niveau de mon corps, mais aussi au niveau de mon âme. Et là, il est parti et il a communiqué à tous ce que Jésus avait fait pour lui. Alors, ce matin, vous êtes ici et vous vous demandez peut-être, est-ce que Dieu s'intéresse à moi? Est-ce que Dieu connaît la situation dans laquelle je suis? Peut-être que vous vous demandez ce matin, est-ce que Dieu peut changer mes circonstances? Ou est-ce que Dieu peut me rencontrer, moi, au niveau de ce que je vis? Au niveau des luttes que j'ai à chaque jour? Au niveau des doutes que j'ai? Au niveau des sentiments négatifs avec lesquels je vis constamment. Et j'ai de la misère à m'approcher de lui. Ce matin, Marc nous dit, Jésus voit chacun d'entre nous. Il voit ce qu'on vit. Il voit notre douleur. Il voit nos circonstances. Il voit notre souffrance. Il voit les circonstances dans lesquelles on se trouve. Mais la chose que je crois, c'est que Jésus veut nous rencontrer, chacun de nous, et avoir cette touche personnelle pour chacun de nous, pour qu'on puisse goûter à son amour, qu'on puisse ressentir sa compassion. C'est pas pour rien que Marc souligne aussi que Jésus a eu de la compassion à ce moment-là, avec le lien de ce lépreux qui avait tellement besoin de goûter à la compassion de quelqu'un, et il a goûté à la compassion de Jésus. Et ça l'a transformé sa vie. Ça l'a transformé littéralement sa vie. Je vais vous inviter à prier avec moi pour terminer ce matin. Seigneur Jésus, tu vois, ma vie ce matin. Tu connais, Seigneur, mon quotidien. Seigneur, est-ce que tu as de la compassion pour moi aussi ce matin? As-tu de la compassion pour ce que je vis, pour les circonstances dans lesquelles je me trouve? ou même peut-être la colère que j'ai à l'intérieur de moi parce que je ne te vois pas, Jésus, à l'œuvre. Je me demande pourquoi, pourquoi tu me laisses dans ces circonstances-là, pourquoi tu me laisses avec cet handicap-là ou cette maladie-là ou... Seigneur Jésus, est-ce que tu peux toucher mon cœur ce matin pour que j'aie un cœur comme ce lépreux qui est venu vers toi malgré tous les obstacles qu'il pouvait avoir autour de lui? Il n'a pas pu s'empêcher que de venir vers toi, Jésus. Peux-tu créer en moi, Seigneur, cette humilité, cette dépendance dans mon cœur, changer mon cœur, Jésus, pour que je puisse venir vers toi, justement, avec une telle disposition de cœur. Et que, Seigneur, je puisse te demander d'intervenir. Et toi, Seigneur, tu peux même aller plus loin que ce que je te demande. Et tu peux me rencontrer là aussi où j'ai besoin. Comme ce lépreux qui avait besoin de savoir que tu avais de la compassion pour lui. Et que toi, Seigneur Jésus, tu étais prêt à le toucher avec ta compassion, ton amour. Seigneur, est-ce que tu peux venir vers moi? Et est-ce que tu peux faire ce que tu as fait pour ce lépreux? Le faire pour moi aussi ce matin. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur Jésus. Et je te demande, rencontre-moi, Jésus, dans ta compassion et dans ta grâce. Fais-moi goûter à ton amour pour que je puisse moi aussi te louer, pour que je puisse moi aussi ne pas être capable de retenir l'emballement que tu vas opérer dans mon cœur parce que je t'aurai rencontré, toi, le Dieu vivant, celui qui a autorité. Merci, Seigneur Jésus. Merci de t'intéresser à moi. C'est en ton nom et pour ta gloire que je te demande. Amen. Amen.